Une notion que j'aimerais soumettre à votre réflexion aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on évoque souvent, mais en fait qui est assez mal défini, c'est la notion de convivialité. Qu'est-ce que la convivialité ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet en fait le vivre ensemble au sein des quartiers, dans le cas présent, mais dans tout espace collectif ? Et c'est évidemment un des grands enjeux de la ville durable, des quartiers durables, que de rendre le cadre de vie agréable pour tous, de permettre à chacun de vivre ce quartier à sa manière, tout en maintenant une cohérence d'ensemble. Donc il s'agit plus précisément ici de définir en fait des principes d'aménagement des espaces collectifs, qui sont les espaces de rencontre au sein des quartiers, pour favoriser justement l'éco-présence, pour permettre en fait le vivre ensemble au sein de ces quartiers. Donc il s'agit surtout d'un programme de recherche et pas de conclusion très définitive. Et puis également, j'ai envie de vous dire que je vais vous parler de principes d'analyse en fait de ces espaces publics plus que de normes d'aménagement. Donc on part d'un constat, celui de la déqualification des espaces publics au niveau des quartiers. On peut dire en gros que les espaces publics sont soit déserts, soit sont encombrés. Dans les quartiers périphériques, en fait, l'uniformité de l'habitat individuel et la mobilité automobile fait qu'en fait les espaces publics n'ont plus véritablement de valeur comme espace de vie. On a également un manque de fonctions de proximité. Et dans les quartiers péricentraux, on a plutôt une congestion due au trafic pendulaire et parfois des confrontations d'usage, que ce soit en termes de mobilité, entre l'automobile, les personnes âgées, les enfants, etc. On a également des coupures spatiales, manque de relations entre les différents éléments du quartier. Donc, les quartiers sont porteurs d'un certain nombre d'enjeux en termes d'espace de vie. On peut parler bien entendu de l'accessibilité aux services de proximité, notamment pour les personnes les moins mobiles, telles que les personnes âgées, les personnes qui ont un vécu plus intense de leur logement, mais également les enfants. Il y a également des enjeux de coprésence. Comment en fait définir des conditions pour que les différents usages puissent coexister au sein de ces espaces publics des quartiers, des enjeux de rencontre, de détente, de loisirs, d'accessibilité aussi au reste de la ville. Donc en fait, la problématique, c'est, on a compris avec Jean-Yves Vautier que le vécu des quartiers en fait dépend véritablement des qualités, des caractéristiques de chacun, caractéristiques sociales, de tempérament, d'intention, etc. Comment finalement trouver les principes d'aménagement pour répondre en fait aux demandes de chacun, à la liberté de chacun, mais tout en maintenant la cohérence de l'ensemble. Donc le défi, c'est comment penser des espaces publics conviviaux. Alors là, je vous propose une définition de la convivialité qui serait un ensemble de qualités du vivre ensemble au sein des espaces collectifs. Je vais parler d'espaces publics par commodité. En fait, on parle des espaces collectifs qui ne sont pas toujours des espaces publics. Donc convivialité telle qu'elle est perçue, qualité telle qu'elles sont perçues par les usagers dans un contexte donné, c'est-à-dire que cette convivialité, elle varie en fonction de la culture et du lieu, et qualité qui se réfère à des valeurs tels que le confort, la liberté des pratiques, l'ordre ou la sécurité, ainsi que l'appartenance. Donc l'objectif de cette recherche, c'est de définir des principes pour un aménagement convivial des espaces publics qui respectent à la fois le besoin de diversité et de liberté de chacun, mais maintiennent également, prennent compte de l'intérêt général et des besoins de cohérence. Donc, on ne prétend pas ici que l'espace soit déterminant des pratiques sociales, mais que l'aménagement de l'espace offre un cadre plus ou moins favorable à l'expression des pratiques sociales. Donc, dans cette tâche ô combien complexe, il s'agit premièrement d'identifier la diversité des vécus et des représentations de l'espace, puisqu'elles sont éminemment personnelles. Mais l'hypothèse qu'on fait ici, c'est qu'au-delà de cette diversité, au-delà de ces vécus individuels, on peut définir des dénominateurs communs de la relation à l'espace ou des représentations de ces espaces. Donc il s'agit également d'identifier les différentes dimensions des espaces publics, collectifs, sur lesquels on pourrait appliquer ces principes de convivialité de l'aménagement. Et finalement, je vous proposerai un certain nombre de principes pour un aménagement convivial des espaces publics que j'ai appelé la congruence, la diversité, l'adéquation et l'unité. Donc, j'ai déjà mentionné qu'il y a un vécu très divers des espaces publics qui dépend déjà de l'intention. Pourquoi est-ce qu'on est sur cet espace? Est-ce qu'on va faire ses courses? Est-ce qu'on est là pour rencontrer les enfants, pour rencontrer leurs copains? Est-ce qu'il peut y avoir différentes intentions qui changent la relation à l'espace? Également, l'inscription dans le cycle de vie, personnes âgées, plus jeunes, actifs, on n'a pas la même relation à l'espace. En fonction du niveau de vie également, on ne fréquente pas les mêmes commerces, on n'a pas les mêmes pratiques. Les cultures, évidemment, ont un rapport à l'espace public complètement différent. Et des tempéraments également, introvertis, extravertis, font qu'on a une relation sensible à l'espace qui est différente. Donc, l'espace public est avant tout un espace social, qui est défini dans le cadre de la planification. Et on pourrait se dire que définir des principes généraux de la convivialité paraît utopique. Cependant, on postule ici l'existence de récurrences interpersonnelles dans la relation à l'espace, qui seraient plus ou moins des structures anthropologiques de la perception de ces espaces, des sortes d'archétypes de la relation à l'espace. Il s'agit donc d'identifier les tendances communes de la relation à l'espace après avoir identifié les pratiques, la variabilité des pratiques en fonction des individus. Quels sont les dénominateurs communs de la relation à l'espace? Donc, un certain nombre d'études se penchent justement, on se regarde sur l'espace plutôt que se regarde sur l'individu, qui est le propre peut-être des sociologues. Donc, on a montré que par certaines études que les espaces ont soit un effet stressant ou un effet restaurateur. Ces effets seraient liés à des contraintes d'ordre développemental liées au traitement de l'information. Notamment, Nassar a montré que pour être apprécié, un environnement doit présenter d'une part de la lisibilité et de la cohérence, d'autre part de la complexité et du mystère pour susciter l'intérêt. Kevin Lynch, un auteur très connu qui a notamment étudié les cartes mentales, les représentations de la ville, a montré que les qualités qui facilitent la lisibilité sont le contraste et la distinction, la simplicité des formes et leur continuité, la dominance, la direction, l'étendue du champ visuel. Ainsi, pour lui, les trois composantes qui permettent de structurer les cartes mentales sont l'identité des éléments. Et on va revenir à cette idée d'identité des éléments et de structure des éléments. Justement, les structures de ces relations, des relations entre les éléments, et le sens des ensembles. L'espace se structurerait donc en voies, limites, nœuds, points de repère. Sous un angle plus sociologique, Ledru a montré que l'espace social se différencie entre centre et non-centre. James Russell et Larry Ward ont montré que l'évaluation de l'environnement peut se lire sur deux axes, agréable, désagréable, et stimulant ou morne. De son côté, Yifu Tuan confirme que l'esprit humain est disposé à organiser l'espace en paires antinomiques dans une logique concentrique à partir des valeurs de l'individu, notamment l'ethnocentrisme ou l'égocentrisme. Ah, ça ne va pas suffire. Donc, Donc en fait, à partir de cette évaluation de l'espace, on postule que cette évaluation de l'espace correspond à des valeurs anthropologiques plus profondes, telles que le besoin de diversité correspondrait à un besoin fondamental de liberté, d'intérêt. La lisibilité ou la cohérence de l'espace correspondrait à des besoins profonds d'ordre et de sécurité. Et puis finalement, l'unité, la cohérence de ces structures correspondrait à des besoins d'appartenance ou d'unité. Donc il s'agit maintenant d'analyser les différentes dimensions de ces espaces collectifs pour savoir en fait comment en fait travailler dessus au niveau de l'aménagement. Donc on peut distinguer en gros deux registres. Le registre de l'espace conçu, qui est véritablement le registre de l'aménagement, où on parle ici des fonctions de l'espace, du statut légal, public-privé, ou de la matérialité. Et puis, souvent, on pense que le lien est direct avec l'espace perçu, l'espace vécu, mais en fait, souvent, il y a des grandes différences entre ces deux registres. Du côté de l'espace perçu, on peut parler des usages de cet espace public, de l'accessibilité sociale, qui n'est pas directement en lien forcément avec le statut public ou privé, et de la proxémie, qui est en fait la relation sensible à l'espace, le sentiment d'intimité ou d'extimité. Alors, bon, je vais devoir... vous pourrez vous référer à la communication qui sera disponible ou qui explique plus en détail ces différentes dimensions. Donc, la dimension fonctionnelle, on peut considérer que ces différentes dimensions fonctionnent comme des couples antagonistes. Donc en termes de fonctions, on peut parler de fonctions plutôt généralistes ou spécialisées. Et à ces fonctions correspondent au niveau de l'espace vécu des usages plutôt banals ou spéciaux. En termes de dimension sociale, on a parlé de l'espace, sa caractéristique publique ou privée, mais effectivement l'accessibilité sociale est différente encore de cette caractéristique de l'espace conçu, mais l'espace peut être plus ou moins accessible à certains groupes, à certains individus, et il s'agit de considérer les relations entre statut légal et accessibilité sociale. Au niveau spatial, quelle est la matérialité de l'espace ? On conçoit un espace avec une certaine ouverture, une certaine fermeture, perméabilité, etc. Mais qu'en est-il du vécu de cette matérialité, de cette spatialité, en termes justement de proxémie, c'est-à-dire de sentiment d'intimité ou d'extimité ? C'est beaucoup de notions, hein. J'espère que c'est pas que je vous arrive à me suivre. Donc là, je vais assez rapidement vous présenter les principes de la convivialité tels que je les propose. Donc la congruence fait référence à l'articulation des différentes dimensions de ces espaces publics pour un élément de cet espace dans sa verticalité. Quelle articulation entre la fonction, la matérialité et le statut légal public-privé, mais plus largement, quelle relation justement entre la fonction définie pour un espace et les différents usages qu'on s'imagine ou qui pourraient être possibles sur cet espace. Quelle est la relation entre le statut légal de cet espace public-privé et l'accessibilité qu'on prévoit sur ces espaces? Et quelle est l'articulation finalement entre les formes et le statut d'intimité ou d'extimité qu'on prévoit pour ces espaces? La diversité qualifiée. Donc on a, à partir de ces dimensions identifiées, comment penser la diversité? Donc cette diversité doit s'appliquer finalement à ces différentes dimensions en termes de fonctions, des fonctions banales et des fonctions spécifiques, pour des usages plutôt généralistes, mais quelle offre pour des usages plus particuliers, sur quels espaces, en termes d'accessibilité sociale, des espaces véritablement collectifs avec une certaine normativité des usages, mais aussi une accessibilité sociale pour des différents groupes, des lieux de rencontre, pour les jeunes, pour différentes associations, etc. Et puis, en termes de spatialité, aussi une diversité entre des lieux plus exposés d'interactions et des lieux plus intimes de retrait au sein du quartier. L'adéquation, en fait, se réfère à la relation entre ces différents espaces et les intérêts particuliers dont ils sont porteurs. Comment ces espaces peuvent cohabiter entre eux? Quelles sont les relations qui se développent entre eux? On distingue des relations de complémentarité, d'indifférence ou d'opposition, qui peuvent se manifester soit du point de vue des fonctions en présence, des caractéristiques sociales ou de la spatialité. Ainsi, selon les éléments en présence, chaque espace peut exprimer ses caractères de façon plus ou moins entière, ou au contraire partir du contexte dans lequel il s'inscrit. C'est donc toujours dans un contexte que s'exprime la relation d'un espace public aux autres espaces publics. L'impact d'un espace public se définit comme le potentiel d'interférence d'un élément de l'espace sur le fonctionnement des espaces environnants. Cet impact peut être positif ou négatif. Il est plus ou moins fort, il est d'autant plus fort que la fonction est dominante, la forme prégnante, le contenu social marqué ou l'activité dynamique. Par exemple, on peut observer des complémentarités entre les commerces ou entre des espaces dédiés à différents publics, notamment aux parents et aux enfants, aux personnes âgées, aux autres usagers du quartier. Deuxième conclusion. Avant-dernière conclusion. Le principe de l'unité. Donc le principe de l'unité décrit ce qui réalise la cohésion entre les différents éléments des espaces publics au sein d'un tout, le quartier dans le cas particulier. L'unité est le dénominateur commun entre ces espaces, à une échelle donnée. Elle peut être réalisée sous la forme de prescriptions visant à préserver les différents intérêts collectifs, par exemple prescriptions architecturales, accessibilité des différents secteurs, type de fonction admise, au-delà des multiples intérêts particuliers. L'unité vise à donner un sens à la diversité. Elle vise la convergence des fonctions vers un rôle commun, l'identité collective. Cette unité d'abord spatiale, continuité des réseaux, unité architecturale, élément marquant l'identité du quartier, délimitation des espaces. Du point de vue des fonctions, l'unité est caractérisée par une synergie, par des synergies de proximité en faveur des usagers du quartier. Et du point de vue de la dimension sociale, il ne s'agit pas d'une uniformisation ou d'une uniformité des usagers, mais plutôt d'un sentiment d'appartenance commune forgé au fil du temps par les relations nouées au quotidien, par des fêtes, etc. La conclusion. Donc, il s'agit d'une approche ambitieuse, je l'admets, globale et systémique des espaces publics, et des relations entre l'espace conçu et l'espace vécu, relations qui ne sont pas forcément toujours bien comprises. Donc il s'agit vraiment d'une grille de lecture et pas d'un instrument normatif, comme je l'ai dit, et on pose ainsi l'hypothèse que l'aménagement des espaces publics n'est pas neutre, qu'il structure en partie nos représentations, mais qu'à l'inverse, nous pouvons agir sur lui agir sur l'aménagement de ces espaces et le construire selon les principes de la convivialité. L'enjeu est donc de définir une gouvernance des espaces publics qui permette de prendre en compte à la fois les intérêts individuels et les intérêts collectifs et qui mette en évidence les relations entre espaces conçus et espaces vécus. Merci.